Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, l'invité d'Escale est Robert Kamenker, un ancien fonctionnaire international qui a été l'un des tout premiers employés de l'ONU en janvier 1946 à Londres, lors de la création effective de l'Organisation mondiale. Il n'avait alors que 18 ans.
J'ai commencé le 1er janvier 1946 à Londres, le jour de la première séance de l'Assemblée générale des Nations Unies, de la première assemblée.
Alors comment avez-vous été amené justement à travailler pour l'ONU ?
Mon père était interprète et avait été lui recruté déjà dans les commissions préparatoires de l'ONU avant, en 1945. Et vers la fin de décembre 1946, on cherchait à recruter tous azimuts pour faire marcher cette première assemblée. Et quelqu'un lui a demandé, est-ce que tu ne connais pas un jeune garçon ou une jeune fille qui connaissent bien l'orthographe et qui viendrait être lecteur aux centrales dactylographiques français ? Et mon père a dit, si je connais, et mon fils, et on lui a dit immédiatement, tu le fais venir, il est engagé. Et j'ai eu donc un premier contrat de 6 semaines.
Et vous étiez à ce moment-là, vous sortiez du lycée, vous sortiez de la faculté ?
J'avais mon bac depuis septembre, je ne savais pas très bien ce que j'allais faire, parce que comme mon père était un petit peu l'oiseau sur la branche avec l'ONU qui ne savait pas encore exactement comment s'organiser, j'attendais à Périgueux ce qui se passait, puisque c'était à Périgueux que j'étais. Et c'est comme ça qu'après Noël, je suis arrivé à Londres.
Alors, jeune Français à Londres, donc on traverse la Manche.
Avec le mal de mer.
Avec le mal de mer. Et on commence donc à travailler, vous commencez à travailler donc pour l'ONU sur c'est une période courte, donc 6 semaines. Quelle est la première impression d'une organisation qui se crée, qui se met en place, qui, comme vous dites, était finalement un peu désorganisée ?
Ça ne me touchait pas, ça. Moi, j'avais un petit boulot où j'étais là à des heures bien précises, au Central d'Actigraphie Français. Je travaillais en lisant à perpétuité des documents des Nations Unies que je ne comprenais pas beaucoup, mais il fallait les lire et les corriger au point de vue orthographe. Ça ne m'a pas fait grande impression à ce moment-là. C'est plus tard, quand les 6 semaines se sont prolongées, puisque le boulot a continué, et que tout à coup, ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas l'équivalent de ce que je faisais, moi, aux États-Unis, quand il s'agit de déménager. Donc, on a dit, tu vas avec les dactylos françaises qui veulent partir, pour qu'on établisse le central français à New York, là où on sera. Et c'est comme ça que ça a commencé.
Alors, l'ONU à New York au début, donc, il ne s'agit pas bien sûr du bâtiment qu'on connaît aujourd'hui sur la première avenue.
Absolument
donc,
pas.
Où est-ce que vous étiez installé ?
D'abord, je voudrais dire que j'ai traversé l'Atlantique en 9 jours sur un porte-avions américain qui avait été prêté aux Anglais sous le régime du pré-bail de la guerre et que les Anglais rendaient aux Américains. Il y avait des cabines d'officiers qui étaient libres, donc on nous a mis à 8 hommes des Nations Unies qui déménageaient à New York. À fin avril, on nous a mis dans ces 8 cabines. Donc on est arrivé là-bas. On est arrivé d'ailleurs à Norfolk en Virginie, le train jusqu'à New York. On nous attend à la gare à New York. On nous met dans un hôtel pas loin de Times Square. Et on nous dit de monter aux Nations Unies le lendemain en nous indiquant que le métro direct de Times Square arrivait au Bronx, à je ne sais plus quelle station. Et c'est là où étaient installées les Nations Unies, très provisoirement, dans un collège, une université qui s'appelait Hunter College. Ce n'est pas le Hunter College du centre-ville, mais c'était un autre Hunter College qui était libre, que les Américains avaient donné aux Nations Unies. Il était libre parce que pendant la guerre, il avait été occupé par des femmes qui travaillaient dans la marine américaine, des auxiliaires féminines de la marine américaine. Et c'est là que j'ai retrouvé quelques-unes des personnes que j'avais connues à Londres et qu'on a reformé le Central d'Actigraphie français.
Alors ce central, justement, il fallait donc parler très bien français, mais il fallait aussi très bien parler anglais.
L'anglais ne faisait pas partie de ce que j'avais à faire.
Donc comment vous avez appris l'anglais ?
J'ai appris l'anglais. D'abord, je ne le connaissais pas trop mal parce que ma famille était multilingue. Les quatre mois que j'avais passé à Londres, j'en avais passé toutes des quantités de soirées au cinéma. Je m'étais habitué à l'anglais. mais je n'étais pas du tout encore très fort en anglais, et surtout en anglais américain, parce qu'il y avait des différences.
Ensuite, par rapport à Hunter College, c'était l'endroit où vous résidiez, où vous travailliez ?
On travaillait à Hunter College et je résidais, j'avais trouvé une piole, une chambre, pas très loin de là où on travaillait, chez une dame dont les deux fils avaient été tués dans le Pacifique et qui louait les chambres. Et c'est comme ça que ça a continué jusqu'à ce qu'en août, les Nations Unies déménagent de là à ce qui s'appelait Lake Success. C'était cette usine de gyroscopes et d'autres instruments qui ne travaillait plus puisque la guerre était finie, on n'avait plus besoin de ces instruments. Et c'est là que le gouvernement américain avait fabriqué, à l'intérieur d'une usine, donc sans fenêtres, avait fabriqué des quantités de bureaux et de salles de conférence d'ailleurs aussi. Et c'est là qu'on est resté, sans savoir ce qui allait être la suite, parce que les négociations pour le nouveau siège des Nations Unies étaient en cours. Et ce n'est que, je ne sais plus exactement quand, probablement en 1947 ou quelque chose comme ça, ou au début 1948, qu'il a été décidé d'accepter le don de Rockefeller, l'emplacement actuel, et de commencer la construction. C'est d'ailleurs pour ça qu'en 1948, nous n'avons pas pu faire l'Assemblée générale à New York. En 1947, ça s'était fait. En 1948, elle est passée partie à Paris. C'est le gouvernement français qui a décidé d'héberger l'Assemblée générale des Nations Unies de 1948 et elle a recommencé d'ailleurs en 1951.
Alors par rapport à tout ce parcours de jeune arrivant dans une organisation internationale en devenir qui se construit au fur et à mesure, est-ce que vous avez la possibilité de faire passer certaines idées pour améliorer le fonctionnement ? À quel niveau d'abord vous étiez ? Vous étiez au bas de l'échelon ?
Oui, tout au début j'étais au bas de l'échelon, surtout à Londres. Arrivé à New York, je ne suis pas resté très longtemps dans le centre dactylographique parce qu'il y avait des postes à remplir un peu partout. Et j'ai commencé par me mettre dans les fournitures, c'est-à-dire que j'ai été chargé de m'occuper de tout ce qui était fourniture, depuis les bureaux, les machines à écrire et les crayons, pour les divisions linguistiques. Ça a été mon premier boulot administratif. C'est là où j'ai commencé à goûter l'administration. De là, je suis passé dans les documentations, la distribution des documents, la surveillance des équivalences dans les langues, etc., etc. Et tout ça, ça a continué jusqu'au déménagement à New York, dans le nouveau bâtiment. Et ça a continué quelques temps après. Mais je suis ensuite passé vraiment dans l'administration. Le soir, je prenais des cours à l'université. J'ai été à l'université qui est au centre de Long Island, pas très loin de Lake Success, l'université Hofstra. J'ai pris d'autres cours à gauche et à droite. Là où j'étais, j'ai trouvé des petits cours, des gens qui donnaient des cours, etc. Et évidemment, j'ai travaillé les langues. Donc, je suis devenu bilingue anglais-français complètement, très rapidement. Puis, je me suis lancé dans l'espagnol.
Donc, avec toutes ces langues et avec donc, déjà cette expérience, vous arrivez, donc on le situe, c'est quoi, 51-52, le déménagement
au... Déménagement, c'était 51.
Et en 51, donc là, l'ONU prend vraiment une vraie ampleur de siéger ici.
Elle est dans ces bâtiments. La seule chose qui ne marchait toujours pas, c'était l'Assemblée générale. Les bâtiments de l'Assemblée générale n'étaient pas prêts. C'est pour ça qu'en 1951, ça a de nouveau été à Paris. Mais à partir de là, ça a toujours été à l'Assemblée générale, ici même.
Par rapport à vos fonctions, et notamment le français à l'époque, le français était une langue qui a été pendant longtemps la fameuse langue diplomatique. On sait qu'aujourd'hui, elle connaît quelques vicissitudes malgré la francophonie et les efforts de l'OIF. Oui. À l'époque, le français, c'était l'égal de l'anglais ?
Pas à New York, non. Pas à New York. Il y a beaucoup de services où le français n'était pas vraiment utilisé. Par exemple, les services dans lesquels j'étais, moi, à la distribution des documents, les gens qui avaient été recrutés pour ça... C'était vraiment les G2, les G3, et on n'exigeait pas de langue à leur époque. Alors, il y a eu des Français par hasard, ou des gens qui connaissaient le français par hasard, mais ce n'était pas du tout une obligation. Par la suite, là où j'ai grimpé un peu plus haut, alors là c'était beaucoup de Français, et je n'ai pas eu besoin des admonestations d'un certain ambassadeur des Nations Unies pour continuer le français, parce que je suis très fier de cette langue et je continue à travailler avec.
Donc, quand on parle donc après les années 51-52, dans le nouveau siège de l'ONU, quelle fonction vous avez occupée par la suite ?
J'ai eu la chance d'être envoyé en mission. Par exemple, en 50, je ne sais plus exactement, j'ai fait partie du groupe qui est parti gérer le Conseil économique et social qui a fait sa session à Santiago du Chili. J'étais 2 mois là-bas. Ça devait être en 51. Oui, c'était tout au début. C'était en 51. On n'était probablement même pas encore dans le nouveau bâtiment. Puis ensuite, j'ai eu d'autres missions et j'ai eu une quantité de missions qui m'ont mis dans l'administration. C'était que chaque fois, j'avais à m'occuper d'un budget, de gérer ce budget, de s'occuper de tous les services généraux, de voir que tout était là, les bureaux, les voitures, etc., etc. Et c'est comme ça que je suis arrivé à un moment donné, vers la fin de ma carrière, comme executive officer au département de l'information.
Et justement, ce parcours à l'ONU, vous disiez qu'au début, c'était un peu un hasard. Sur une suggestion paternelle, oui, vous avez intégré l'ONU. La vocation, elle est née comment ?
Oh, je crois que c'est dans la famille. C'est plutôt un atavisme qu'une vocation. C'est très difficile à dire. Si, je crois que ce que je peux ajouter, c'est qu'au moment où tout ça, ça se passait, c'est-à-dire fin 45, début 46, la guerre, c'était quelque chose d'absolument horrible qu'on voulait laisser derrière. Je crois qu'on croyait vraiment à la paix et que la seule façon d'arriver à la paix, c'était l'ONU. Je crois que vraiment, on y croyait tous. Et on l'a cru pendant longtemps. Et d'ailleurs, moi, je crois toujours aujourd'hui que si on veut régler les problèmes, il faut adhérer à la charte complètement, ce que beaucoup d'États ne font pas, pour réussir.
Justement, les premiers doutes sur la mise en œuvre de la charte, sur l'efficacité de l'ONU, sont apparus quand ?
Oh, c'est apparu très très tôt. Il y a eu, par exemple, je me souviens d'un des tout premiers incidents que le Conseil de sécurité a eu à débattre. C'était une histoire de problème de frontière entre la Grèce et l'Albanie. Il y avait des bisbilles avec les vaches qui passaient d'un côté et de l'autre, qui broutaient l'herbe du voisin. Il y avait des représailles de la part, si je me souviens bien, des Albanais de l'époque, qui peignaient les petites pyramides frontières en noir pour qu'on ne les distingue pas. Enfin, je ne sais plus, c'était assez bizarre tout ça. Et c'est là, par exemple, où l'Union soviétique, pour défendre l'Albanie de l'époque, a mis son veto sur une résolution. Ça a été l'une des premières. Je ne l'ai pas en tête exactement, mais je me souviens que c'était ça. Et c'est là qu'on a commencé à voir qu'il y avait des divisions dans ce monde, que tout le monde n'était pas d'accord et que tout le monde n'avait pas raison.
Au début, les Nations Unies, c'était 50 pays. Les gens sont
53, oui, si je me souviens bien.
Les différents nationaux sont venus petit à petit. Vous avez finalement, au départ, vous connaissiez tout le monde se connaissait.
Ah oui,
absolument. C'était une famille de combien de personnes ?
Il y avait à peu près 550 à 600 personnes. En août 1946, quand nous avons déménagé à l'Ex-Access. C'est d'ailleurs ce qui a donné un espèce de club qui s'est formé spontanément. Moi, je n'ai pas formé, j'en ai fait partie automatiquement. Tous les fonctionnaires des Nations Unies qui travaillaient avant le déménagement à l'Ex-Access ont formé ce qui s'appelle la Société des Mohicans.
Sur quelle base les Mohicans ?
Les Mohicans, simplement parce qu'on était fonctionnaires des Nations Unies avant août. C'était D'accord. La seule base. Et on a pendant de très très nombreuses années eu une fête annuelle, etc., etc. Et d'ailleurs, je pense que je ne suis pas loin d'être maintenant, à l'âge que j'ai, sinon le dernier, mais le presque dernier des Mohicans.
Voilà, fin de ce magazine Escale avec Robert Kamenker qui nous parlait de plus de 70 ans d'ONU et de passion pour les Nations Unies et la paix et le développement dans le monde. Une émission que nous retrouverons la semaine prochaine pour une seconde partie, consacrée toujours donc au témoignage de Robert Kamenker. Un magazine Escale qui était préparé et présenté cette semaine par Jérôme Longuet avec la collaboration de Christina Silvero. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.
Oui.